Père Mathias Samyau, bonjour.
Bonjour. Chers auditeurs et chères auditrices de Radio Maria, soyez les bienvenus. C'est votre émission mensuelle Trésor de l'année liturgique. Le joli mois de mai va bientôt s'ouvrir et nous savons qu'il est marqué par la dévotion mariale. Et j'aimerais évoquer 5 apparitions mariales en France qui sont appelées parfois le grand M. Marie a, pour ainsi dire, a posé son signe, son initiale sur notre beau pays, et nous allons donc regarder en détail ces 5 apparitions et les relier au chapelet. Alors j'aimerais commencer par la Salette en 1846. C'est une apparition assez douloureuse, qui n'est pas facile à évoquer parce que autant les autres sont souvent joyeuses, celle-ci est un peu particulière. Maximin, qui fut l'un des deux témoins de l'apparition, note dans son témoignage qu'il aurait vu comme une maman que ses enfants auraient battue et qui se serait ensauvée dans la montagne pour pleurer à son aise. Donc quelque chose d'assez difficile. Alors quelle est la cause de ce chagrin? Eh bien Marie pleure sur la France et sur ses péchés. En fait, ce qui cause le plus de peine à Dieu, c'est sans doute notre infidélité. Pensez par exemple à Jésus qui va pleurer sur Jérusalem. Ou encore dans l'Apocalypse, quand le Christ s'adresse à l'église d'Éphèse, « Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. » Le thème de la Salette, en fait, c'est la justice et la miséricorde. Bien sûr, Dieu est amour, alors il pardonne à l'infini, et pourtant il ne laisse pas le péché sans conséquence. Pensez par exemple au prophète Jonas, qui va évoquer dans un premier temps le châtiment qui menace la ville de Ninive, mais heureusement que les habitants vont se convertir, faire pénitence, et par conséquent, eh bien, la ville va échapper au désastre. Alors la Salette, c'est une exhortation qui nous rappelle qu'effectivement le péché a des conséquences, et Marie apparaît d'ailleurs avec 2 objets, un marteau et un clou. Et donc la conséquence du péché, c'est qu'il blesse le cœur de Dieu, c'est le marteau, alors que la tenaille va justement chercher à symboliquement enlever justement les clous qui seraient comme enfoncés dans le cœur de Dieu. Alors le péché, en fait, c'est intéressant de se rappeler qu'au début, c'est quelque chose d'invisible. Le péché, on ne l'a jamais vu, mais le péché, en fait, se concrétise. Et notamment dans l'histoire d'Israël, il y a un événement important à rappeler, c'est son exil. C'est-à-dire qu'en fait, les rois d'Israël, enfin en tout cas certains, ont accumulé un certain nombre d'infidélités, notamment à cause de l'idolâtrie, et à la fin, ces péchés se sont tellement accumulés que, eh bien, la coupe était pleine, et par conséquent, le peuple a été chassé de sa terre. Donc ça a été un drame national extrêmement douloureux, donc un événement très marquant dans l'histoire sainte du peuple hébreu. Et en fait, au commencement, il y avait des petites infidélités, puis qui ont commencé à devenir plus grandes, plus fréquentes, et à la fin, vous voyez, la conséquence du péché, d'abord c'est invisible, et puis après ça se répète, ça devient une habitude, et à la fin, bah, c'est un effondrement complet. On peut aussi rappeler que par rapport au péché, une accumulation de petits péchés peut peser aussi lourd qu'un grand péché. Donc ça veut dire que finalement, entre un péché grave et une multitude de petits péchés, on peut finalement avoir la même intensité. D'où, entre parenthèses, l'importance de la confession au minimum annuel, c'est ce que nous avons sans doute vécu au cours du carême. Alors quel lien peut-on faire entre la Salette d'un côté et le chapelet de l'autre ? Eh bien moi je prendrais volontiers une petite image simple. Je dirais que le péché a tendance à blesser le cœur immaculé de Marie. Parfois effectivement on peut la représenter comme Notre-Dame des 7 douleurs avec plusieurs glaives, effectivement en général 7 qui vont toucher, blesser son cœur. Donc ça fait penser effectivement à la Pietà, donc la Vierge Marie qui est devant la croix ou alors qui prend le corps de Jésus qui vient d'en être descendu. Donc le péché peut blesser le cœur de Dieu et le cœur des êtres saints, notamment Marie, puisqu'elle, elle n'a jamais commis de péché. Et donc si son cœur est blessé par le péché, eh bien dans ses blessures, nous pouvons y déposer des roses, qui seront bien sûr nos Ave Maria, nos chapelets, nos rosaires, nos dizeniers et nos Angelus. Donc on ne peut pas forcément empêcher le monde de pécher, mais dans les blessures que ce péché va causer, on peut apporter à la Vierge Marie une sorte de consolation, de compensation par une prière fidèle. Nous allons maintenant changer d'apparition, nous allons évoquer Lourdes, une apparition extrêmement connue, qui dépasse largement les frontières bien sûr de la France, parce que c'est un sanctuaire mondial de première classe. Donc Lourdes 1848, la petite Bernadette va recevoir au total 18 apparitions. Le cœur du message, en fait, c'est la pénitence et la guérison. L'occasion de rappeler qu'il existe deux sacrements de guérison. La confession, qui est un sacrement de guérison interne, et le sacrement des malades, un sacrement de guérison externe. Et en réalité, les deux fonctionnent ensemble, puisque la couleur pour les célébrer est identique, c'est le violet. Et c'est vrai que quand on demande à recevoir un sacrement des malades, il peut être intéressant aussi, en premier lieu, en premier temps, eh bien pourquoi pas de se confesser. Dans l'Évangile, il y a un passage intéressant pour relier les deux et les comprendre, c'est la guérison du paralytique. Nous sommes au chapitre 2 de l'Évangile selon saint Marc, et vous savez que donc, un paralytique va être effectivement d'abord pardonné, puis relevé. Il est d'abord pardonné, et ensuite guéri de son infirmité, et ça veut dire quelque chose qui est contre-intuitif, c'est que la santé de l'âme vaut plus que la santé du corps. Alors évidemment, on aimerait bien que les malades soient guéris, mais effectivement, c'est un grand mystère de se dire que c'est d'abord notre âme qui a une importance et ensuite le corps. Donc c'est vrai que cet ordre-là, on l'a peut-être un peu perdu, parce que de nos jours, on a un accès à la santé qui est effectivement beaucoup plus important que nos ancêtres. Alors la question peut se poser maintenant, en petite note de bas de page, mais pourquoi les maladies? Là, il y a deux saints qui vont nous répondre, ce sont des docteurs de l'Église. D'abord, saint Irénée de Lyon nous dit « C'est pour ce motif qu'il disait « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire », manifestant par là que c'était à cause du péché de désobéissance que les maladies avaient assailli les hommes. » Donc l'hypothèse d'Irénée, c'est dire effectivement le péché est finalement, en définitive, la cause des maladies, parce que l'être humain est complètement désaxé, effectivement, il n'est plus relié à Dieu. Hildegard Bingen nous dit « Pratiquement toutes nos maladies ont pour cause première des dérèglements de notre âme, une éclipse de notre personne profonde, qui est spirituelle par essence. » Donc effectivement, dès que la personne humaine n'est plus tournée vers Dieu, dès que l'image n'est plus reliée à son archétype, dès que la créature s'éloigne du Créateur, ça a des conséquences d'abord intérieures et ensuite peut-être parfois extérieures. Alors la croix de la maladie est une réelle participation à la croix du Christ. C'est la parole de Paul qui écrit aux Colossiens « Maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair. Je l'accomplis pour son corps, qui est l'Église. » Donc c'est-à-dire qu'en perspective chrétienne, la souffrance, même si on n'est pas là pour l'expliquer ou la faire disparaître, elle peut avoir un horizon qui est l'horizon effectivement de la croix, alors qui n'est jamais facile bien sûr à traverser. Et on aimait vraiment que les gens soient soulagés de toutes leurs souffrances, mais quand la souffrance est présente et que l'art médical ne peut pas la soulager, nous comme chrétiens, on a cet horizon de la participation à la passion du Christ. D'ailleurs, Jésus s'adresse à sainte Faustine et dit dans le petit journal qu'elle a rédigé, il évoque des âmes qui ont beaucoup souffert et dit « Ces âmes qui me ressemblent dans les souffrances et dans les mépris me ressembleront aussi dans la gloire. » Donc la communion à la passion est aussi une communion, je dirais, à la gloire du Christ, puisqu'on ne peut pas séparer le Vendredi Saint du dimanche de Pâques. Alors on peut dire qu'il y a donc deux grands rôles par rapport à la maladie. Il y a le personnel médical qui va apporter guérison et soulagement, et ceux qui ne sont pas médecins, le personnel non médical va apporter la compassion. Et donc le chapelet dans cette affaire, qu'est-ce qu'il peut avoir comme rôle? Je dirais que le chapelet peut être effectivement une compassion active. Nous pouvons prier pour les malades, mais surtout aller les visiter, prier avec eux, leur rendre des services. Et ça, c'est un très beau visage de l'Église. Parce que si on dit on a prié pour vous, mais qu'on n'était pas présent, c'est un peu abstrait. Et donc l'idée, c'est d'avoir une compassion active et, autant que faire se peut, d'être présent au chevet de nos chers malades. Troisième apparition, c'est Notre-Dame de Pontmain. Alors pas très connue, mais tout à fait intéressante. Nous sommes en 1871, avec un contexte très douloureux pour la France, qui est alors en guerre avec la Prusse, et les Prussiens ont poussé jusqu'à Laval, donc pour vous dire qu'ils ont quand même été très loin, et Marie apparaît un 17 janvier. Et le plus étonnant, c'est que seuls 4 enfants, en tout et pour tout, vont la voir. Donc à partir du moment où des enfants voient la Vierge, on se pose quand même quelques questions. Mais puisqu'ils voient quelque chose qui est concordant, qui répond à quelques questions, eh bien, les adultes se rassemblent autour des enfants et finalement, une veillée est improvisée et va se mettre en place pour justement qu'on soit en communion avec ce que les enfants voient dans le ciel. Et le plus étonnant, c'est que l'apparition est dynamique. Au fur et à mesure des différents chants, eh bien, le visage de la Vierge, les éléments autour d'elle vont changer. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas statique, qui est dynamique et qui correspond peut-être aux chants qui sont pris. Le message va s'afficher dans le ciel, mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera dans peu de temps, mon fils se laisse toucher. Donc ça, c'est un message en fait assez bref. La Vierge Marie n'a pas délivré beaucoup de choses, mais elle insiste sur l'importance de l'intercession et que Dieu entend et que Dieu répond. Sauf qu'il y a une condition, bien sûr, c'est prier. On pourrait presque faire un lien entre Pontmain et l'île Bouchard, puisqu'effectivement, il y a quelques enfants qui voient la Vierge et qui invitent à prier pour la France, qui aussi pour le cas l'île Bouchard en 1947, donc était dans une certaine tribulation. Alors, ce qui est intéressant dans cette apparition, c'est que Marie va conduire à Jésus, et effectivement, elle va peut-être apporter nos prières, selon cette image qui vient, je crois, de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Il explique que si vous êtes un mendiant et que vous donnez une corbeille de fruits au roi, le roi sera très touché de votre geste, mais enfin, comme vous êtes un mendiant, pas forcément ce qui va le passionner. Si, par contre, vous donnez cette corbeille de fruits à la reine et qui va l'apporter au roi, le résultat sera sans doute le même, mais le roi sera peut-être un peu plus regardant à ce qui lui est offert. Donc c'est une parabole de Louis-Marie Grignon de Montfort pour expliciter, bien sûr qu'on peut s'adresser à Dieu dans nos prières, mais on peut aussi passer par la reine, donc la Vierge Marie, pour présenter nos demandes et nos intercessions. Donc Marie n'est pas la source de la grâce, c'est Dieu qui l'est, mais elle est un canal, comme l'a explicité Bernard de Clairvaux avec l'image de l'aqueduc. Le bienheureux Marie-Eugène de l'enfant Jésus, lui, utiliser une autre image, celle du cou, pour signifier le lien entre la tête et le corps. Et d'ailleurs, le Concile Vatican II a explicité les choses, donc je me permets de vous lire un petit paragraphe. Le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque et ne diminue en rien cette unique médiation du Christ. Il en manifeste au contraire la vertu. Car toute influence salutaire de la part de la Bienheureuse Vierge sur les hommes, a sa source dans une disposition purement gratuite de Dieu. Elle ne naît pas d'une nécessité objective, mais découle de la surabondance des mérites du Christ. Elle s'appuie sur sa médiation, dont elle dépend en tout, et d'où elle tire toute sa vertu. L'union immédiate des croyants avec le Christ ne s'en trouve en aucune manière empêchée, mais au contraire aidée. Autrement dit, dans la communion des saints, Marie a une place tout à fait éminente, même suréminente, mais elle n'est pas hors de cette communion. Alors, à partir de cette apparition, comment on pourrait renouveler notre manière de prier le chapelet ? Eh bien, peut-être comme une manière de prolonger ce qui se passe au Cénacle. Vous savez, au Cénacle, juste avant la Pentecôte, il y a un tout petit passage qui n'est pas forcément très connu, et on dit qu'en fait que les apôtres et quelques saintes femmes vont persévérer dans la prière avec Marie, mère de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, quand on prie le chapelet, en fait, on continue à travers le temps de l'Église cette prière fidèle et fervente pour attirer encore et toujours l'Esprit-Saint sur le monde. Donc quand on prie le chapelet, quelque part, c'est comme si en esprit nous étions au Cénacle et nous demandions avec Marie, les anges et tous les saints du ciel et l'Église militante que de nouveau et encore et toujours l'Esprit-Saint se déverse sur le monde. Nous poursuivons notre regard sur le grand M, ou les cinq apparitions mariales en France au XIXe, avec la rue du Bac. Nous sommes en 1830, et nous connaissons beaucoup cette apparition grâce à un objet béni qui a fait le tour du monde, la médaille miraculeuse. Et là, c'est important de faire un petit détour pour nous rappeler que la matière est bonne, et que le monde n'est pas mauvais. Aujourd'hui, avec l'essor de la technologie, on a une sorte de néo-manichéisme qui se met en place avec une peur de la matière. On a l'impression que la matière serait mauvaise et que l'esprit serait bon. Or, la matière est bonne et Dieu nous le dit à plusieurs reprises, d'abord par la création, ensuite par l'incarnation, puisque Dieu prend un corps et il grandit. Et enfin, n'oublions pas les sacrements qui utilise de la matière, par exemple l'eau pour le baptême, le feu qui sera béni à Pâques, à la vigile pascale, le pain et le vin qui sont les stars incontestées, avec bien sûr la matière eucharistique. N'oublions pas l'huile qui sert pour le baptême, les confirmations, ordination, consécration d'autel et dédicace d'église. Mais il y a aussi les fibres animales pour le tissu, le cuir. Les métaux précieux sont aussi très aimés de l'église pour fabriquer des vases sacrés, des ostensoirs, des crucifix. Finalement, la matière, vous l'aurez compris, est bonne. Alors par rapport à la médaille miraculeuse, c'est un rappel discret que Dieu passe par des objets simples. Et ça, c'est important de se dire que même un objet simple peut avoir une réelle importance dans la vie spirituelle. Peut-être que l'acte limitant, en fait, c'est notre foi. Et peut-être que parfois, c'est notre doute ou notre incrédulité qui met une petite barrière à la grâce de Dieu. Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, qui serait celui de confondre un objet béni avec un gris-gris. On est d'accord qu'une médaille miraculeuse n'est pas un talisman qui chasse le malheur, mais voilà quelque chose qui manifeste notre confiance dans la puissance de Dieu. Alors, dans cette apparition, Marie, on va dire, s'offre comme un refuge. Elle a donc des bras ouverts avec des rayons qui indiquent les grâces qui débordent d'elle, et puis elle a un cœur large. Alors, ce qui pourrait intéresser notre dévotion mariale à partir de cette apparition, eh bien, c'est l'importance de prier le chapelet en toutes circonstances. Par exemple, en famille, en couple, en paroisse, en quartier, peut-être dans nos mouvements d'église et peut-être aussi dans nos services paroissiaux. Ça, c'est intéressant de se dire qu'il n'y a pas que le groupe marial qui peut relier toutes ces personnes, mais on peut avoir cette bonne habitude de le prier eh bien, régulièrement et même à domicile. Et peut-être que nous pourrions penser au 7 octobre. Notre-Dame du Rosaire, c'est une fête très importante pour l'Église, mais notamment, je pense, en Amérique du Sud. Il y a certains pays qui ont la bonne habitude de remplir littéralement des stades pour prier le Rosaire. Ça nous semble un peu étonnant, mais on pourrait se dire, mais finalement, si beaucoup de gens veulent prier ce Rosaire, pourquoi ne pas rassembler toutes ces personnes pour qu'il n'y ait pas simplement quelques prières par-ci par-là, mais vraiment un rassemblement visible, palpable et même missionnaire. Nous continuons avec l'apparition un peu moins connue, peut-être la moins des cinq, à Pellevoisin, en 1871. Effectivement, elle n'est pas très connue, mais elle est très belle. Alors, quelle est la situation? Une certaine Estelle Faguette s'inquiète de sa mauvaise santé et elle craint qu'elle ne pourra pas vivre longtemps alors qu'elle a encore ses vieux parents à charge. Et donc, Estelle va confier à la Vierge Marie sa peine en écrivant une lettre. Elle va déposer la lettre derrière une statue de la Vierge Marie. Et en fait, Estelle va être exaucée largement au-delà de ses vœux, puisqu'elle va rentrer en dialogue avec Marie à travers un certain nombre d'apparitions. Et en fait, c'est la chambre d'Estelle Faguette qui va devenir la chapelle des apparitions. Donc c'est assez étonnant, parce que du coup, ça fait un sanctuaire marial petit, mais néanmoins très intéressant, où on rentre finalement dans le quotidien de la voyante. Et quelque part, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que Dieu est présent partout, et donc on peut avoir des grands sanctuaires mariaux, et des sanctuaires plus petits, comme ça, voilà, ça peut convenir à tous les goûts. Alors qu'est-ce que cette apparition nous dit? Eh bien, en fait, elle nous dit que beaucoup veulent aller vers Dieu, donc ça c'est l'image d'un triangle dont la pointe est tournée vers le haut, voilà, on aime bien faire des efforts pour monter vers Dieu, mais le défi, c'est d'accepter l'inverse. Le triangle qui descend vers le bas, c'est-à-dire Dieu qui fait irruption dans votre vie. Et souvent, on accepte de monter vers Dieu, parce qu'après tout, c'est bien normal, mais on a du mal à accepter sa présence qui fait irruption chez nous, parce qu'en fait, on veut parfois aller à Dieu à la force du poignet. Or, quand vous unissez vos deux triangles, ça donne eh bien, l'image d'Israël, c'est-à-dire les deux triangles, l'étoile de David, et en fait, au centre, vous avez l'alliance. C'est-à-dire que si le don de Dieu rencontre l'effort de l'homme, alors effectivement, ça fait des étincelles. Et s'il n'y a que l'un ou que l'autre, il ne se passe rien. Donc il faut d'abord accueillir le don de Dieu qui nous précède. Dieu nous a aimé le premier, dit saint Jean. Mais ensuite, on n'est pas passif, donc on va accueillir ce don et par conséquent transformer l'essai. Donc Dieu fait irruption dans nos existences, mais il attend aussi une réponse, une contribution. L'appel de Marie, on va dire, qui peut résumer un petit peu l'apparition de Pellevoisin, c'est « Sois simple ». La Vierge Marie invite à la simplicité et peut-être effectivement à ce que dans la Bible on appelle l'unification du cœur. Vous savez que dans la Bible, le cœur, c'est pas simplement l'organe qui bat, c'est pas simplement la pompe cardiaque, c'est beaucoup plus profond que ça. Le cœur biblique, c'est en fait notre personne profonde, notre intériorité, et donc le cœur, en définitive, sera le lieu où Dieu nous parle et où nous parlons à Dieu. Donc c'est un lieu stratégique. Et par conséquent, ce cœur a été en fait assez bouleversé suite au péché des origines, et donc tout le travail de la vie spirituelle, en fait, ça va être d'unifier ce cœur. Finalement, le cœur souvent est morcelé en différentes passions, donc on a tendance à aller vers l'extérieur et on n'est pas satisfait. Et la vie spirituelle va guérir cet éclatement pour justement qu'on aille vers l'intérieur, donc en nous, et comme par hasard, c'est là où Dieu se rend présent. Enfin, bien sûr, Dieu est au ciel, me direz-vous, mais on peut aussi trouver la présence de Dieu en nous, et ça, c'est l'évangile de la Samaritaine. La Samaritaine était un peu comme tous les gens de son époque, elle avait ses passions, ses difficultés, et Jésus lui fait comprendre qu'elle peut rentrer en elle-même, descendre au fond de son cœur, et que va-t-elle trouver? Eh bien, l'eau vive. Donc effectivement, le puits, c'est très bien pour puiser de l'eau physique, mais aussi, quand elle descendra en elle, eh bien maintenant qu'elle a la foi en Christ, elle va pouvoir trouver une source vivifiante, une source jaillissant en vie éternelle. Donc finalement, cette apparition peut nous indiquer pour renouveler notre manière de prier le chapelet, en fait, c'est notre unité de vie en Christ, être unifié en Christ. Et donc là, ce qui peut nous aider, c'est la méditation des mystères. Et effectivement, l'intérêt des mystères, des 20 mystères donc du rosaire, c'est qu'on contemple une vingtaine de scènes évangéliques avec le cœur de Marie et à travers ses yeux. Donc on est finalement aux premières loges avec Marie pour poser un regard sur l'évangile. Alors évidemment, les mystères à la fin, on les connaît par cœur, mais justement, le défi, c'est de ne pas s'habituer et d'essayer de trouver quelque chose de neuf à chaque fois. Bon, l'intérêt, c'est que le chapelet, on ne peut pas s'en lasser, mais on pourrait dire, en fait, les mystères, on les connaît bien, mais justement, l'idée, c'est de les approfondir et qu'ils descendent dans notre cœur. Donc, ne pas être extérieur au mystère, ne pas se contenter d'une méditation, on va dire, intellectuelle, cérébrale, mais que ça devienne existentiel. Donc que ces mystères puissent descendre en nous et informer notre manière d'être, d'agir, de penser et de prier. Et si on fait ça, alors effectivement, bah la parole sera vivante, elle aura pris chair, et donc elle se sera quelque part comme prolongée en nous. Donc il y aura bien le Christ tête qui va agir à travers ses membres, et donc effectivement le chapelet, le rosaire, ce sont des prières extrêmement puissantes pour notre chemin de sainteté, de sanctification. Je vais rassembler notre parcours, mais je vais d'abord rajouter quelques promesses. Quelques promesses du bienheureux, enfin, faites par Marie au bienheureux Alain de la Roche. Donc il y en a une quinzaine, je ne vais pas vous les lire parce que ça ferait un peu une liste à la Prévert, mais je vais quand même en donner quelques-unes pour vous donner le goût eh bien, de méditer le chapelet. Parce que c'est vrai que si on connaissait ces promesses, eh bien, on serait vraiment toujours en train de prier. On l'aurait toujours à la main, donc j'en dis quelques-unes. Mais qui sont, à mon avis, intéressantes à savourer. Quiconque récitera pieusement le rosaire et persévérera dans cette dévotion verra ses prières exaucées. D'ailleurs, c'est pas mal. Une autre, ceux qui récitent le rosaire trouveront pendant leur vie et à leur mort réconfort et lumière. On peut rajouter, prêche le rosaire, donc là c'est plutôt pour les prêtres, c'est une arme très puissante contre l'enfer et un bouclier impénétrable contre les traits de l'ennemi. Une autre promesse, les vrais dévots du rosaire ne mourront pas sans sacrement. Et enfin, une dernière, donc la 15e, les vrais enfants de mon rosaire jouiront d'une grande gloire dans le ciel. Donc là, je pense que tout le monde est convaincu, on va ne plus lâcher le rosaire ni le chapelet, spécialement dans le mois de mai, le mois de Marie, qui va bientôt s'ouvrir. On résume, et on va donc terminer cette prise de parole. Peut-être que le mot de la fin, en fait, il faut l'emprunter à la Vierge Marie elle-même. Et ce mot de la fin, en fait, on le connaît bien, il est très célèbre, c'est ce qu'elle dit. Aux noces de Cana, d'ailleurs, c'est son dernier mot de tout l'évangile, donc sa 7e et dernière parole, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Et il me semble qu'au long des 2000 ans de l'histoire de l'Église, cette parole s'est comme déployée. On peut dire qu'à chaque fois que Marie apparaît, d'une certaine manière, elle va déployer en fait ce qu'elle a dit ce jour-là aux noces de Cana, parce que quand Marie apparaît, le message nous renvoie toujours à l'évangile. Alors sans doute à un aspect un peu différent de l'évangile selon le temps, selon l'espace, selon les circonstances. Donc elle nous invite à approfondir un élément de la révélation donc publique qui est close, mais cette révélation donc techniquement de nature privée néanmoins nous renvoie au cœur de la révélation. Donc Marie redésigne son fils, renvoie à l'évangile. Et donc on peut dire que Marie finalement c'est le disciple idéal. Elle est en vérité la première en chemin. Donc prenons sa main et puis avançons dans ses pas à la suite du Christ. Amen.
Père Mathias Amieux, nous avons Yvan avec nous qui souhaiterait intervenir. Bonjour Yvan.
Bonjour. Alors donc, je voudrais dire que l'aide de la Vierge Marie dans la prière, c'est un peu comme dans une voiture, l'assistance de direction. L'assistance de direction ne fait pas tourner les roues, mais elle facilite la tâche. Hein. On a moins d'efforts à fournir et une bonne assistance, c'est quand elle est bien dosée. Parce qu'une surassistance, ça ne va pas non plus. Et avec Marie, il n'y a pas de surassistance. La direction, c'est le Christ. Hein, donc le Christ reste ce qu'il est. Et Marie ne se contente, si j'ose dire, d'accompagner et puis de faciliter la tâche. Un peu comme dans une assistance de direction. Ben, la direction assistée, c'est plus agréable qu'une direction qui ne l'est pas. C'est plus clair. La voiture est plus lourde à manœuvrer. Voilà ce que j'en fais l'expérience, bon, bien sûr, tous les jours. Voilà ce que je voulais dire.
Merci Yvan, c'est une très belle image, effectivement. La Vierge Marie ne se substitue pas au Christ ni à nous. Elle va faciliter le lien entre lui et nous. Et effectivement, cette image de la conduite est très juste. Sans cette direction assistée, on peine. On peut y arriver, mais enfin, on sue sang et eau. Et avec la Vierge Marie, les choses sont vraiment facilitées, donc Marie est médiatrice dans l'ordre de la grâce.
Oui, voilà.
Merci Yvan pour votre témoignage.
Merci, bonne journée.
Bonne journée. Alors nous avons maintenant Jocelyne. Bonjour Jocelyne.
Oui, bonjour. Allô père.
Oui Jocelyne, nous vous écoutons.
Alors voilà, je voulais simplement vous dire que j'étais très heureuse de vous entendre. Justement, je sors de la prison où nous avons fait une équipe du rosaire en prison à Béthune. Et puis, je m'étais efforcée de leur dire par-dessus tout que la Vierge était vraiment auprès d'elle, auprès de chacun d'eux, et qu'elle était là pour les guider, les conduire. Je me suis efforcée de leur expliquer que Marie était une mère et qu'il n'y avait rien de mieux qu'une mère pour justement les guider. Et ben, j'étais très heureuse d'avoir votre émission parce que je sors de cette prière où j'ai senti quand même que chacun des prisonniers adhérer justement à l'amour d'une mère. Voilà, c'est ce que je voulais dire et puis faire confiance en Marie pour tous les temps de notre vie et puis que voilà c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci Père.
Merci Jocelyne, effectivement. Oui, Marie présente en toutes circonstances, partout et toujours. En fait, elle est derrière chacun de ses enfants et puis elle ne laisse tomber personne. Donc elle est vraiment toujours sur la brèche, toujours prête à aider. La question, c'est peut-être qu'on n'est pas souvent, nous, en réceptivité. Donc comme une maman, elle tend les bras. Maintenant, la question, c'est est-ce que nous, en face, on a la simplicité d'accueillir cette main tendue, tout simplement.
Oui. Oui, et puis après, vous savez, ce sont quand même pas forcément des personnes que l'on rencontre là en prison qui sont, comment dirais-je, je ne vais pas dire éduquées, c'est parce que le mot n'est pas bon, mais ils ne savent pas forcément qu'ils sont aimés.
Exact, oui.
C'est ça.
Justement.
Alors, moi, c'est mon désir, c'est de leur dire que Jésus est en chacun d'entre nous. Et qu'il nous aime tous, il ne nous juge pas, il ne cherche pas, des gens extraordinaires, il cherche des gens simples, des gens qui, comme vous et moi, qui sont avec tous leurs défauts, leurs qualités, leurs péchés, mais qui sont là, près de Marie et Jésus, et sont en nous. C'est ce que j'essaye de leur dire, et je pense que ça leur fait du bien, parce que je ne pense pas qu'on leur ait dit beaucoup de fois.
Tout à fait. En fait, Jésus et Marie cherchent des...
C'est l'amour. Il faut leur dire qu'ils sont aimés. Chacun d'entre nous, c'est ça. On a besoin de savoir qu'on est aimé.
Jésus cherche des cœurs ouverts et disponibles, tout simplement.
Voilà.
Merci Jocelyne.
Merci Père.
Merci Jocelyne. Alors nous avons maintenant Nadine. Bonjour Nadine.
Sandrine, bonjour Père.
Bonjour.
Écoutez, merci beaucoup pour vos enseignements, c'est magnifique. Je voulais vous poser une question. J'ai eu la grâce de recevoir très récemment le sacrement des malades, ce qui est très compliqué parce que les prêtres ne se dérangent pas à domicile pour nous qui sommes malades. Je me suis confessée avant et le prêtre ne m'a pas donné l'absolution. Il est passé directement au sacrement des malades. Je n'ai pas osé lui demander pourquoi. Je voulais savoir s'il me faut me confesser ou si le sacrement des malades comprend l'absolution et le pardon des péchés.
Bah, manifestement, je pense que c'est un oubli de sa part, puisque les deux sacrements ils ont leur autonomie. Alors, ils ont un lien entre eux qui n'est pas toujours nécessaire, enfin, qui a priori est tout à fait intéressant à vivre. Donc, peut-être que de sa part, c'était un oubli, peut-être dans la précipitation, mais normalement, il faut les distinguer. Donc,
effectivement, c'est bien ce que je me posais comme question. Si l'absolution n'est pas donnée avec la formule habituelle, le sacrement n'est pas valable.
Bah, me semble-t-il. Alors peut-être qu'il faut le recontacter pour...
Ouais, non, il ne reviendra pas, hein, parce que c'était déjà exceptionnel.
D'accord, bah, on va prier pour que vous ayez quelqu'un qui puisse vous apporter ce beau sacrement de confession, bien sûr.
Je vous remercie beaucoup pour votre éclairage.
Merci Nadine.
Bonne soirée à vous, au revoir.
Au revoir.
Merci Nadine.
Au revoir Sandrine.
Au revoir. Alors voilà, nous avons eu tous nos auditeurs et nous approchons du terme de l'émission. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire au terme de cette émission, Père ?
Bah, je pense que le chapelet, c'est une prière qu'on peut toujours et sans cesse redécouvrir. Parce qu'en fait, je crois que c'est le pape Jean-Paul Ier qui disait que l'amour est toujours nouveau. Et donc même dans cette répétition qui paraît pour le monde, ou pour des gens non chrétiens, un peu monotone, un peu du rabâchage, en fait c'est faux. Parce que justement c'est un amour qui se répète et qui s'approfondit. Et donc ce qu'on peut dire c'est que visiblement, certes, il y a une sorte de redite, mais quand on entre dans l'esprit de cette dévotion, quand on la prie vraiment dans l'Esprit Saint, alors effectivement le chapelet, le rosaire peut devenir un véritable levier de sanctification et un chemin de joie et de bonheur, même si en définitive ça reste une prière simple, peut-être quotidienne, accessible. Mais je dirais que sa beauté, c'est qu'on peut toujours redire à Jésus et à Marie notre amour à travers effectivement le quotidien, des choses très simples. Et si on le fait, si on est fidèle, alors on verra des fruits innombrables germer dans nos vies et aussi dans celles des autres.
Merci Père Mathias Samio et nous vous retrouvons le mois prochain.
Merci, au revoir.
Au revoir. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Trésor de l'année liturgique avec le Père Mathias Samio. Et si vous souhaitez réécouter cette émission en podcast, n'hésitez pas à le faire sur notre site radiomaria.fr.